Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast.
Des ondes vocastes, le podcast qui parle de radio chaque mois, le rendez-vous pour parler de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vous écoutez Des ondes vocastes, bienvenue.
Des ondes vocastes.
Maximum.
Maximum. Home.
Clubbing. 6 janvier 1992.
Maximum, c'était le 23 octobre 1989, c'était le premier disque Maximum, et je fais premièrement souvenir parce que j'ai fait cette émission, Janet Jackson, Mission Match, et puis Maximum, c'est fini.
Le 23 mai 2020, Maximum is Maximum.
Home clubbing.
Maximum.
Home clubbing.
Libre, innovante, surprenante. De 1989 à 1991, Maximum a changé notre vie. Une révolution musicale naissait avec l'arrivée de la techno et de la house music. Maximum, c'était un esprit, un son, des jingles, des animateurs et toute une équipe dont on connaît encore les noms aujourd'hui. Joachim Garraud, Patangeli, Lorenzo Pancino, Cocteau et bien sûr Fred Rister et Eric Auville qui nous manquent et à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Ce 23 mai, le groupe FG fait renaître Maximum avec l'idée qu'une bande de passionnés peut faire bouger les lignes, défricher, innover autour des nouveaux courants électro. Alors bienvenue à toutes et à tous, vous êtes maintenant à bord de Maximum Home Clubbing et on commence avec Kölsch, Time. Bienvenue sur Maximum.
Vous venez d'entendre un extrait, un monté des débuts du nouveau Maximum mythique, radio relancé par FG. On a déjà parlé de l'histoire de Maximum et M40 dans l'épisode d'octobre 2018. Donc on va pas revenir dessus, mais je tenais quand même à faire un petit clin d'œil. Si vous avez raté le lancement, la réactivation de Maximum, rendez-vous sur piges.vocast.fr. Vous retrouverez les enregistrements heure par heure de Maximum et aussi de sa web radio Maximum Classique, en plus de plus de 200 autres radios. Bref, concernant cette émission, comme toujours dans Des ondes vocastes, partie historique et focus sur les évolutions du média radio, et pour cet épisode, on va voir avec Florent Mounier, fondateur de la Fabrique Audio, que finalement les frontières entre podcast et radio sont très floues. Vous découvrirez comment Florent utilise son expérience en radio pour produire des podcasts, production ensuite vendue à des radios. Nous verrons ensemble quel est le positionnement de son studio de production de contenu La Fabrique Audio et comment il gère son réseau. Et justement, en parlant de podcast, je vous propose un entretien avec Sarah Toporov, ex-Global Editors Network, qui nous donne son point de vue. Elle explique comment le podcasting peut mieux se développer. Sarah est une Américaine qui travaille maintenant en France pour Netia. Elle écoute beaucoup de podcasts, notamment anglophones, et elle liste quelles sont, selon elle, les pistes pour que le podcasting puisse grossir. Si cela vous intéresse, ça se passe dans Des ondes vocastes premium. Rendez-vous sur premium.vocast.fr et on écoutera une petite partie de l'entretien pendant l'émission. À chaque épisode du podcast Des ondes vocastes, il est aussi question de l'histoire des radios, et pour cette fois-ci, on reviendra sur l'histoire de Metropolis, ex-Rock FM, avec Bertrand Deveter, l'actuel responsable d'antenne, et Julien Manot, qui a longtemps été aux commandes de la matinale de la station. Mais on commence, comme toujours, avec un regard sur la radio d'aujourd'hui. On va écouter des extraits de radio et podcast actuels. C'est le tour des ondes en 80 tours.
Des ondes vocastes ? Le tour des ondes en 80 tours.
Pour cet épisode, on va comprendre en quoi la distinction entre podcast et radio n'a pas forcément de sens. On connaît bien entendu les émissions de radio qui ont leur replay en podcast, mais l'inverse est de plus en plus vrai. Il y a de plus en plus de contenus originellement produits en podcast qui finalement se retrouvent diffusés sur des radios. La Fabrique Audio est spécialiste dans ce genre de procédé et Florent Mounier, son fondateur, est là pour nous en parler. Bonjour Florent.
Bonjour Anthony, bonjour à toutes et tous.
Alors c'est un secret pour personne, de nombreuses radios se servent de banques de programmes. On recourt au voice track, sous-traite la production de contenu auprès de personnes comme toi, mais aussi auprès d'agences comme Maxillaire, Sophia ou A2PRL. Alors la particularité pour toi, c'est que, un peu comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, ce que tu produis n'est pas spécialement en marque blanche. La Fabrique Audio est un réseau de podcasts à part entière et certaines radios utilisent tes podcasts pour compléter leur grille d'antenne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, La Fabrique Audio, c'est notamment le podcast La Petite Histoire ou même le Bouche à Oreille. Alors justement, pour le Bouche à Oreille, c'est intéressant et c'est assez particulier, c'est un podcast de marque, pour le guide du même nom, mais aussi diffusé sur Radio Camargue. Qui est client de qui finalement pour ce podcast ?
Alors c'est en fait c'est très simple, l'histoire du bouche à oreille, elle a commencé avec la rencontre avec Olivier Gros qui a le bouche à oreille, qui est le guide gastronomique du sud-est de la France depuis de nombreuses années, et en fait on avait déjà travaillé ensemble à l'époque sur une radio du sud-est de la France, c'est Maritima, et donc à l'époque on proposait déjà ces chroniques du bouche à oreille avec des critiques de restaurants, des restos du coin. On avait eu de très bons retours. Et du coup, quelques années plus tard, donc l'émission n'était plus sur Maritima, et on s'est recontacté avec l'envie de refaire des chroniques, mais cette fois-ci en s'adaptant un petit peu à ce qui était devenu le contexte radiophonique et audio, en ayant l'idée de faire des chroniques en podcast. Donc l'idée était d'être pendant de ce qui se fait dans le guide version papier et internet, mais cette fois-ci donc en podcast. Donc ni une ni deux, on fait notre podcast, on s'amuse bien, on trouve que ça sort plutôt pas mal, comme ce qu'on faisait à l'époque sur Maritima. Et puis très vite, Radio Camargue, qui se trouve sur une zone géographique proche de celle de Maritima, est intéressée pour diffuser ses contenus.
Alors justement, voici un extrait du podcast Le Bouche à Oreille au sein de Radio Camargue.
Radio Camargue. Merci d'être avec nous, vous écoutez Radio Camargue et je suis ravi de vous proposer de revenir à la fin des années 80 très vite avec Black. On va écouter Wonderful Life, également mis pour Somsem, et juste avant, eh bien nous retrouvons Olivier Gros du guide gastronomique Le Bouche à Oreille sur Radio Camargue.
Merci d'être avec nous effectivement sur Radio Camargue. Olivier Gros, bonjour.
Bonjour Florent, bonjour à tous.
Avec vous habituellement, on est dans les restaurants, les bonnes tables de la région, on se détend, on déguste également, mais là voilà, c'est compliqué, la période fait que on est chez nous, et peut-être qu'on aimerait continuer à déguster les bons mets des restaurants. Alors vous me direz, il n'y a pas de mets qui tiennent, mais je vous dirais quand même que peut-être que vous avez des bons plans pour nous, pour se faire livrer ou à emporter.
Oui, ça commence à bouger de ce côté-là, et cette semaine, je vous emmène au Petit Pavé à Orgon.
Et je rappelle également que effectivement, c'est à retrouver sur votre guide Le Bouche à Oreille, puisque il y a une critique qui est là toute l'année et donc qui nous attend là, petite critique exceptionnelle, petit point d'information, on va dire, concernant ce restaurant qui propose du à emporter.
Voilà, et je précise bien sûr que les conditions d'hygiène sont évidemment grandement respectées.
Merci Olivier Gros.
Merci Florent.
Et bon appétit.
Donc voilà, on peut t'entendre en podcast via La Fabrique Audio, mais aussi du coup à 12h30 sur Radio Camargue. Est-ce que pour toi c'est nécessaire de retravailler les productions en fonction des diffuseurs ? Est-ce que finalement tu dois quand même te calquer sur les demandes précises et spécifiques de radio cliente, ou elles prennent le podcast comme tu l'as fait initialement ? Pour le réseau.
Alors pour ce qui est du bouche à oreille aujourd'hui, on le diffuse que sur Radio Camargue. Donc, pour cette radio, on parle évidemment que des restaurants qui se situent sur la zone de diffusion de Radio Camargue. C'est évident qu'on va pas aller parler d'un restaurant qui se trouve à Toulon, alors que Radio Camargue n'est même pas sur Toulon. Alors que le bouche à oreille a pas mal de lecteurs sur Toulon. Mais par contre, si on avait un autre diffuseur, et ce qui est largement envisageable dans le futur, une radio qui aurait une zone de diffusion un petit peu différente de celle de Radio Camargue, eh bien on pourrait lui proposer de parler des restaurants basés sur sa zone géographique. Donc c'est vraiment du travail chirurgical.
C'est-à-dire que c'est déclinable en fait, quoi.
Absolument. Ouais. C'est. On veut vraiment s'adapter à fond. Alors non pas la ligne éditoriale de la radio, parce que là c'est vraiment la ligne éditoriale de Olivier Gros et du bouche à oreille, mais on veut s'adapter à fond, à 100% à la zone géographique du diffuseur.
T'as aussi le cas avec le podcast Les Aventuriers. Aussi.
Oui, effectivement, la Fabrique Audio qui produit ce podcast Les Aventuriers. L'idée, c'était de mettre en avant des expatriés qui sont au bout du monde et puis qui viennent nous parler de leur quotidien. Il y a aussi des personnes qui ont réalisé des défis sportifs ou humains. Et il y a une version désormais radio qui peut s'adapter aux diffuseurs. Donc, elle est un petit peu différente de sa version podcast, puisque elle s'adapte pour le coup, encore une fois, à la zone de la radio. Donc, par exemple, sur Radio Camargue, on diffuse Les Aventuriers. Désormais, ça s'appelle Les Aventuriers de Camargue, pour la version diffusée à la radio. Et on s'intéresse uniquement aux personnes qui sont originaires de Camargue ou en tout cas du sud-est de la France et qui ont des récits de voyage qui peuvent avoir un lien de près ou de loin avec la région camarguaise.
Et justement, on a un extrait hein, de Des aventuriers de Camargue.
Et juste avant, eh bien, nous allons découvrir nos aventuriers de Camargue au micro de Florent Mounier sur Radio Camargue.
Salut tout le monde, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va retrouver un Nîmois. Il s'agit de Florian qui est avec nous. Bonjour Florian.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes allé vivre pendant pas mal de temps d'ailleurs hein, à Prague, en République tchèque. Et on avait envie de se replonger dans ce grand voyage, même plus qu'un voyage, une expatriation.
C'est tout à fait ça. Je suis parti en République tchèque pour... 3 ans environ, peut-être un peu plus. Mmh. Et donc oui, je suis parti à Prague. C'est pas prévu du tout, ni la destination, ni la durée de l'expatriation.
Florian, merci beaucoup. Vous nous avez vendu Prague et la République tchèque. En plus, il y a des départs a priori depuis l'aéroport de Marseille-Provence. Mais ça sera pour après. Voilà. Là aujourd'hui, on avait envie de rêver et de s'évader sur Radio Camargue.
Bon, là, naturellement, j'ai un peu coupé extrait, mais en fait, vous pourrez, si vous écoutez sur Radio Camargue, les aventuriers durent environ 3 minutes, c'est ça, mais en podcast, c'est, ça, oui. C'est des épisodes plutôt d'un quart d'heure, même plus, 20 minutes, j'ai cru.
Ouais. On a en fait, allez, en gros, ça part de 8 minutes jusqu'à 20 minutes, une demi-heure, on a même des gros épisodes d'une heure.
Alors, en plus de la Fabrique Audio, tu produis aussi une web radio, Cinéma Radio, depuis 2014. Écoutez.
Cinéma Radio.
Cinéma Radio.
C'est plus de 40 000 oreilles différentes qui écoutent nos programmes tous les mois. Web radio.
C'est bien.
Podcast. Ah. Chaîne YouTube. Ah. Cinéma Radio vous remercie de votre fidélité.
Cinéma Radio.
La radio officielle du 7e art.
Cinéma Radio. Cinéma Radio. Cinéma
Radio. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi j'en parle, c'est que ce que j'en ai compris, c'est que avant, tu produisais des émissions avec l'optique de les diffuser dans le flux, mais alors maintenant, c'est l'inverse. La locomotive, c'est désormais les podcasts et ensuite les diffuser sur la web radio en flux.
Ouais, effectivement, hein, je crois qu'aujourd'hui on est vraiment arrivé dans un contexte qui évolue dans l'univers de l'audio, dans l'univers des médias de manière générale, d'ailleurs, et donc il y a plein de choses qui sont à revoir dans la manière de créer, de fabriquer, de penser les programmes et dans leur diffusion, et donc effectivement, avec Cinéma Radio, il y a une équipe d'une grosse dizaine de collaborateurs et c'est vrai qu'il y a encore 3 ans, on pensait l'antenne radio avant de penser à la rediffusion qui allait suivre avec les plateformes de diffusion podcast. Et depuis quelques temps, ça s'est totalement inversé. On diffuse notre podcast et la radio est en fait devenue un canal de rediffusion finalement, en tout cas un canal de deuxième vie du contenu. Donc ça, c'est assez rigolo. Alors c'est le cas pour Cinéma Radio, mais on s'en rend compte, c'est le cas de plus en plus chez les autres diffuseurs et les autres médias qui existent, producteurs de contenu, que ce soit Europe 1, Radio France, RTL, qui font de plus en plus de contenu audio, qui de temps en temps même ne sont pas diffusés sur leur flux radio, quoi.
Qui balance la nuit comme ça.
Voilà, ouais.
Pour revenir à la Fabrique Audio, ton positionnement, c'est le talk. Tu t'aventures pas sur le terrain des fictions audio, contrairement à beaucoup de studios. En plus, rien de nouveau hein, quant à ces fictions audio. Les feuilletons radiophoniques sur France Culture, par exemple, ça existe depuis longtemps. Et puis on sait que hein, le public cible est restreint, l'usage n'est pas si prometteur que ça. Alors justement, je pense que c'est ça ta force, c'est que tu as une longue expérience en radio. Tu as été animateur pour Maritima Radio, tu étais responsable des programmes sur Rage aussi. Et du coup, est-ce que cette connaissance, cette expérience dans le secteur radiophonique, c'est ce qui te permet de comprendre comment renouveler la consommation audio sans trop en fait réinventer les codes et le son connu des pros du secteur radiophonique?
En tout cas, moi je crois vraiment en la pertinence de la conversation, je dirais. Je sais pas si c'est l'expérience qui fait que je crois en certains formats, mais clairement, je suis intimement convaincu que les auditeurs et les auditrices ont envie d'entendre, je dirais presque la vie, la vraie, ça rappelle un slogan. Hein.
Puis entre nous, oui. Niveau modèle économique, vaut mieux faire du talk aussi quand même.
Alors clairement, parce que la fiction, je la trouve intéressante parce que on peut inventer un milliard de choses avec l'audio, on peut faire imaginer les gens, c'est super. Mais il faut avoir un sacré budget pour créer une vraie bonne fiction avec de très bons acteurs aussi, parce que ça aussi ça y fait. Donc moi je crois qu'aujourd'hui c'est pas du tout adapté à ce que je suis en capacité de faire avec la fabrique audio. Par contre, là où j'ai une vraie carte à jouer, c'est sur tout ce qui est talk-show avec animatrice, animateur, qui évoque des sujets de société, de l'impro, de l'humour évidemment, des coups de gueule, des coups de cœur. Encore une fois, la vie, la vraie. Voilà, ça, je pense que des contenus qui sont ancrés dans le réel et non dans la fiction, c'est vraiment la raison d'être de la fabrique audio. Ça, c'est clair.
Et puis en plus, c'est plus adapté à l'écoute parce que on sait que quand on écoute des choses, on est un petit peu moins concentré contrairement à la consommation sur un écran. Et donc, c'est vrai que la fiction demande vraiment trop de concentration, alors que du talk, ça demande moins de concentration.
On se rend bien compte qu'aux États-Unis, il y a vraiment énormément de podcasts qui ont un lien avec le concret, avec la vie de tous les jours, qui sont des talk shows qui cartonnent. Et je crois que c'est ceux qui cartonnent le plus aujourd'hui aux États-Unis. Quoi.
L'American donc, Life, c'est ça, quoi.
Exactement, qui vient d'être récompensé et qui cartonne en termes d'audience, ouais.
Ben merci en tout cas Florent pour ton intervention.
Merci à toi Anthony. Et puis, avec grand plaisir.
Rendez-vous sur lafabriqueaudio.com pour en savoir plus.
Oui, avec un K d'ailleurs, la fabrique.
Et oui, la fabrique.
Je le dis parce que sinon on arrive autre part.
C'est vrai que je l'ai pas précisé parce que maintenant j'ai l'habitude, mais effectivement c'est lafabriqueaudio.com. Et comment faire en sorte que le podcasting devienne mainstream entre guillemets, comment faire pour que le podcast soit plus courant, hein, compris et consommé par tous autant que la radio. On en parle tout de suite avec Sarah Toporov.
Des ondes vocastes. La radio a tout pour réussir.
Tout de suite, nous allons parler du milieu du podcasting, comment faire en sorte qu'une majorité de la population connaisse et écoute des programmes audio à la demande. Et cette fois-ci, je suis ravi d'en parler avec Sarah Toporov. Bonjour Sarah.
Bonjour Anthony.
Alors tu travailles aujourd'hui pour Netia, une entreprise fournissant des solutions d'automatisation radio. Et avant, tu étais en charge d'organiser des hackathons et tu nouais des partenariats pour Global Editors Network. Alors une chose qu'on remarque dans le secteur du podcast, c'est le phénomène big podcasting, à savoir les méga plateformes type Spotify qui se lancent à coups de millions de dollars en financement. Est-ce que ça apporte réellement du bon pour le secteur ?
Quand les podcasts sont devenus disponibles sur Spotify, pour moi c'était un serial moment, c'est-à-dire que ça a eu autant d'effet sur le secteur que quand Serial est apparu.
C'est la deuxième plateforme la plus utilisée pour écouter des podcasts, ça c'est sûr.
Et pendant très très longtemps, tout le monde se demandait, mais tu vois, le fait que Apple Podcasts soit native sur les iPhones, ça a amené beaucoup plus de monde à écouter. Mais il n'y avait pas de solution pour Android, ce qui est quand même le OS majoritaire sur la planète. C'est une leçon que j'ai tirée de l'époque quand j'ai animé des hackathons. C'est qu'il faut aller là où il y a ton public. Ça peut être le meilleur appli de toute l'histoire, mais s'il n'y a personne dessus, on s'en fout. Donc Spotify, en gros, les médias qui rendent leur contenu disponible sur Spotify, ils appliquent ce principe. Donc il y a une contre-tendance des radios publiques, puis un an ou deux, je dirais, et c'est vraiment le plus agressif là-dessus, c'était BBC Sounds.
Des ondes vocastes.
Voilà, c'était un court extrait de l'édito avec Sarah Toporov. Pour en savoir plus, hein, pour comprendre comment le podcast peut devenir mainstream, abonnez-vous à Des Ondes Vocastes Premium, premium.vocastes.fr. Mais pour parler de l'avenir d'un média, il est important d'en comprendre son passé. Et c'est pour ça qu'à chaque épisode, il y a une partie archive, et cette fois-ci consacrée à Rock FM, l'actuelle radio de la région lilloise, Métropolis.
Des Ondes Vocastes. Les archives.
Pour cet épisode, il est question de l'histoire de Métropolis. On a déjà parlé dans Des Ondes Vocastes de M40, fusion en 1992 entre Maximum et une radio qui s'appelait Métropolis. Mais pour cet épisode, on va se concentrer sur l'histoire de Métropolis, la radio lilloise, qui s'appelait jusqu'en décembre 2009 Rock FM. Les deux radios Métropolis, l'une des années 80 et l'autre actuelle, n'ont en réalité aucun lien, à quelques détails près, et si vous ne le savez pas encore, vous allez comprendre ce qui lie indirectement ces deux radios. Pour parler de l'histoire de Métropolis en anciennement Rock FM, je reçois deux personnes. Premièrement, Bertrand Deveter, actuellement directeur d'antenne et animateur. Il fait partie de l'équipe depuis août 2001. Et Julien Manot, qui témoignera également. Il était coordinateur d'antenne, matinalier et producteur de la station pendant 8 ans, de 2005 à 2013. On va commencer avec Bertrand Deveter. Bonjour Bertrand.
Salut Anthony.
Alors Rock FM a été créé en 1991. La radio lance ses programmes en 92. Alors les initiales signifient Radio œcuménique chrétienne. C'est une radio associative, donc de catégorie A. Et le détail qui a son importance, c'est que quand on s'intéresse à ceux qui sont à l'initiative du projet, parmi eux, il y a un certain Bruno Lecluse.
Absolument, Bruno Lecluse, qui était donc lui-même cofondateur du premier Métropolis, hein, celui qui s'est installé en 84 avec Philippe Schemberg, qui était donc son associé. 91, alors c'est juste une date qui est assez importante parce que en même temps, à la création de Rock FM, on a du côté de Métropolis la fusion avec le réseau national Kiss FM. Donc quelque part aussi pour Bruno, c'est on peut dire peut-être aussi une roue de secours au cas où le plan de cette fusion se foire. Et c'est un risque important à l'époque, hein, juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que on est Métropolis 88-89, c'est près de 500 000 auditeurs sur le Nord-Pas-de-Calais Picardie. Bruno a une opportunité incroyable, c'est eh bien de devenir un réseau national depuis une ville de province. Il prend le risque. Et bon, voilà, commercialement, musicalement, on va dire que ça n'a pas pris. Et on connaît l'histoire qui est une autre histoire. Donc ensuite est arrivé Rock FM. C'était drôle, c'était comique également, c'est que au niveau de la programmation de Rock FM, c'était Philippe Schemberg. Donc on retrouvait les deux collaborateurs, les deux cofondateurs du premier Métropolis.
Alors l'idée originale, c'était de proposer aux auditeurs de la région lilloise une radio qui réunissait tous les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens, et ça visait surtout les jeunes de 18 à 35 ans, avec des musiques plutôt R&B, avec quelques chroniques en lien avec la religion. Mais alors un auditeur du podcast des ondes Vocast, Tony, du site grandezonde.fr, nous a envoyé des extraits d'archives de Rock FM. Un grand merci à lui. Voici donc des jingles de Rock FM datés de 1999.
Nouveauté, Rock FM.
Rock FM.
Nouveau son,
nouvelle vibration.
Le meilleur du R&B.
Rock FM.
Rock, rock, Rock FM.
Le meilleur du R&B.
Rock, rock, Rock FM.
Donc des jingles de Rock FM de 1999. Tu les as connus, ça te rappelle quelque chose, ces jingles là?
Alors j'étais à l'époque auditeur. C'était vraiment effectivement un son qui était nouveau tout de même pour l'époque. C'était du son pop, R&B, groove, soul, classe, un peu à l'américaine. Donc c'était déjà, on était un peu déjà dans une niche. Le projet surtout de Bruno, c'était à travers en tout cas Rock FM, sa volonté, c'était on va dire d'imaginer plus un projet qui repose sur en fait sur des valeurs qui permettaient aux parents, d'où la cible qui était un peu plus jeune, aux parents de, on va dire, de laisser leurs enfants écouter la radio sans avoir, on va dire, la crainte de ce qu'ils pouvaient entendre. J'ai discuté il y a pas longtemps avec Bruno et il m'en reparlait parce que à cette époque-là, 91, 92, etc., on était sur en radio beaucoup de provocations avec Maurice, Radio Libre,
Love in Fun,
le tronche d'Arthur et les Love, et voilà, c'était ça. Et donc c'était pour les parents à l'époque une ouverture, radio communique chrétienne, mais tu vois, c'était pas comme RCF, l'Homélie chaque après-midi, le Je vous salue Marie, etc. en boucle. C'était attirer une nouvelle radio, s'imposer, s'installer et comprendre que cette radio pouvait vraiment être écoutée voilà, en voiture, par les parents, avec les enfants.
Alors, Rock FM, finalement, trouve son audience. Hein. J'ai même pu lire qu'elle atteint jusqu'à 7,8% des 18-35 ans sur sa zone de diffusion. Mais en 2000, changement de format, changement de cible. Rock FM veut s'adresser maintenant aux 25-45 ans avec un format adulte contemporain, donc des golds en journée et disco le soir.
Alors, entre autres, est arrivé aussi à ce moment-là, je pense en 99, Laurent Ogne en tant que directeur d'antenne. On rappelle qu'il y avait à peu près une vingtaine de bénévoles, donc il y avait des émissions dont on peut encore me parler aujourd'hui, les messages aux prisonniers le dimanche matin, les familles des prisonniers, enfin, je dis ça avec le sourire, mais l'idée était vraiment bonne, c'est les familles des, voilà, de ceux qui étaient en prison, entre autres la prison de Loos, près de Lille, et bien laisser des messages sur cassette, et il y avait un bénévole qui arrivait le vendredi soir et qui diffusait les messages, et les prisonniers, eux, écoutaient depuis leur cellule ces messages-là. On avait des lectures, on avait des explications de textes d'évangile, hein. C'était bon. Le projet était bien sûr de devenir une radio commerciale, et Laurent décide donc, à la demande de Bruno, de professionnaliser l'antenne. Donc petit à petit, bah, on se sépare de quelques bénévoles. J'arrive en 2001. Musicalement, je vais revenir sur la musique, effectivement, on quitte un peu cette radio pop, R&B, soul, de niche, pour retrouver une radio beaucoup plus commerciale. Et ensuite, effectivement, voilà, c'était l'embauche d'un journaliste pour les flashs et les décros. On avait Saint-Omer et Lille. L'animation en live, parce que c'était aussi une époque où on était quasiment en voice track. Donc voilà, c'est une radio qui retrouvait une âme. Voilà, avec le direct, il fallait professionnaliser l'antenne, c'était important. Après, on était polyvalent, on était vraiment trois. Laurent Ogne à l'antenne. J'étais présent où je travaillais aussi sur les écoutes de titres pour la programmation. Et Olivier Piochon est aujourd'hui sur Radio 6. Quoi. Donc on était vraiment voilà un trio et une partie rédaction.
Alors naturellement, donc, l'habillage a changé. Alors je vous propose d'écouter de nouveau un jingle. Alors cette fois-ci, il date de 2003. Jingle fourni par Tony, merci encore à lui, Tony du site grandesondes.fr. Un peu plus typique des années 2000, on va dire, au niveau de l'habillage.
Oui, au niveau de l'habillage, au niveau du ton, mais avec une programmation qui était essentiellement gold, mais pas que. C'est-à-dire que l'auditeur à l'époque, c'était, bah voilà, je peux entendre aussi bien un Yazoo, Depeche Mode, un classique Whispers Funk, le dernier de David Guetta. On voulait pas enfermer l'auditeur dans une décennie, et pour moi, de mémoire, c'était la première radio Rock FM qui pouvait proposer d'ouvrir son heure ou sortir de pub avec un gold. Donc par contre, voilà, on peut parler 20 secondes, on peut parler 30 secondes, si on a quelque chose à dire en 2 minutes, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant avec un son peut-être, mais voilà, on s'obligeait pas à avoir des règles. Avoir des entrées et des sorties avec des phrases toutes écrites. Donc il y avait vraiment ce côté humain. Il y avait un putain d'habillage et une animation vraiment proche, de proximité humaine et sincère.
C'est vrai que depuis le repositionnement en 2000, selon Médiamétrie, on est passé de 11 800 auditeurs quotidiens en 2001 à 80 900 en 2005. Dès 2002, plus de 20% des revenus proviennent de la publicité. Alors tu le disais, hein, les dirigeants avaient déjà en tête depuis assez longtemps de passer du statut associatif à une radio commerciale.
Commerciale, oui.
Et en 2005, le CSA valide ce changement de catégorie. C'est aussi cette année-là où toi, tu remplaces Laurent Ogne à la direction de l'antenne.
En même temps, Olivier Piochon, donc on était un trio. Hein, Laurent décide de partir en juin et Olivier Piochon me l'annonce, mais genre au mois d'août 2005, donc à quelques semaines de la rentrée. Et voilà, il a fallu que je reprenne effectivement le poste et les responsabilités de directeur d'antenne, de recruter celui qu'on va entendre dans un instant, Julien Manot, mon ami, mon acolyte, et Brian également, Brian Noir, qui était sur RTL2 Lille et qui, bah pareil, voilà, qui faisait les après-midi, du voice track le week-end et tout ce qui était planif pub. Également, donc voilà, on a un nouveau trio s'est formé. On avait tellement construit énormément de choses, j'avais un petit peu peur que le château de cartes se casse la gueule, et finalement, voilà, on a consolidé les bases.
En tout cas, comme tu le disais, en 2005, c'est l'année où Julien Manot rejoint Rock FM, et justement, Julien est aussi là pour nous raconter tout ça. Bonjour Julien.
Bonjour Anthony, bonjour à tous.
Alors, toi, tu as rejoint Rock FM en 2005, et donc à ce moment-là, comment tu décrirais la radio à cette époque ?
Alors, j'arrive à la rentrée de 2005 pour la matinale. C'était une première pour moi. Moi, je sortais des réseaux catégorie C, donc je découvrais la radio locale, la radio B.
Et un an après ton arrivée, les premiers chiffres sont plutôt bons. C'est un gros carton. 106 300 auditeurs selon les médias locaux de 2006. Pour la saison 2006-2007, j'ai remarqué un truc quand même assez hallucinant via le site Radioscope. Tu étais à l'antenne 33 heures par semaine, donc de 6 heures à midi du lundi au vendredi, et de midi à 15h le samedi. Alors Bertrand, lui, c'était 28h dans la semaine, ce qui est quand même beaucoup également. Mais c'était tenable pour toi, 33h par semaine? T'avais une grande part de voice track peut-être?
Oui, je pense qu'il y avait, alors franchement, sincèrement, j'ai plus le souvenir de faire autant d'antennes, mais oui, je pense qu'il y avait une petite part de voice track, surtout en deuxième partie de matinée, je pense, que je devais faire effectivement à 6h midi. Mais la deuxième partie était plus voice trackée. Je me souviens pas que c'était incommensurable. Effectivement, on a beaucoup fait d'antennes cette année-là.
Et tu as retrouvé différentes archives. Et alors, il y en a une que j'ai vraiment bien appréciée. Ça date du 24 septembre 2007. C'est un extrait de toi, la matinale de Rock FM. On écoute.
Notre directeur d'antenne est venu plus tôt ce matin, je sais pas si t'as vu. Il est dans son bureau.
Oui.
Il est calme, en train d'écouter des titres, tout ça. On va tester s'il écoute la radio. D'accord? Parce que souvent il nous le dit, attention les gars, passez pas d'autres musiques que celles de Rock FM, bien évidemment. Arrêtez de déconner, tout ça. Bon. Nous allons donc tester en combien de temps il peut débarquer dans le studio si nous passons par exemple un petit Chantal Goya.
Alors allons-y.
Allons-y, attention. Donc tant qu'il est pas dans le studio, on passe Chantal Goya. Allons-y. Déjà, près de 10 secondes. Il est long, hein?
Des fées et des joyeux.
Voilà, ça y est.
Ah bah dis donc.
Tu peux me le graver?
Voilà. On ne copie pas, monsieur, on achète.
Oui, on achète.
Oh, ça va.
Surtout Chantal Goya.
Ah oui. C'est un disque de mon bureau.
C'est la collection personnelle en plus. Voici Duel. C'est Propaganda sur OKFM. Bon réveil tout le monde. 8h35. Ça aura duré 12 secondes quand même.
Bravo.
Hein, bravo. Pour ton talent et l'ensemble de ta carrière.
Je suis en train de parler.
D'accord.
Pour faire 3 mètres quand même, c'est pas mal. Hein.
Allez, bon réveil tout le monde. C'est lundi, nous sommes le 24 septembre. Et vous écoutez OKFM, c'est votre radio. Wow.
Donc extrait du bon réveil sur Rock FM avec toi, Julien. Ça te rappelle des bons souvenirs? Tu t'en souvenais de ça justement?
Oui. Alors je me suis replongé dedans pour trouver les archives, mais ça fait cliché de dire ça parce que tout le monde dit ça mais les quelques années sont passées. Ça fait bien longtemps que j'ai quitté Rock FM et Metropolis, mais c'est vrai que c'était une vraie petite famille, quoi. On n'était pas nombreux à travailler là-bas et on rigolait ensemble, on mangeait ensemble, on sortait ensemble. Et voilà, c'est donc effectivement ce genre de choses, on se le permettait et il y avait une vraie bonne ambiance.
Et en tout cas, c'était un extrait de septembre 2007. Et quelques mois plus tard, grosse année hein, pour Rock FM en 2008, deux web radios sont lancées, Rock FM 90, dont tu as la charge, et Bertrand, lui, s'occupe de Rock FM 80. C'était des flux totalement musicaux?
C'était 100% musique. Rock était très axé sur les 80 et 90. Et en même temps, certains auditeurs n'aimaient que les années 80, d'autres que les années 90. On s'est dit, tiens, on va lancer deux web radios. Voilà, c'était donc on avait quand même fait un gros travail de programmation avec Brian qui avait beaucoup travaillé sur la programmation et puis un habillage pour chaque radio avec son propre habillage. C'était pas celui de Rock FM, c'était un habillage spécifique qui tournait sur ces radios-là.
Et donc justement, tu as retrouvé le liner de Rock FM 80. Écoutez.
Rock FM 80.
Rock FM 80.
Et donc c'est toi qui t'étais producteur aussi pour Rock FM si je me souviens bien. Donc c'est toi qui les a fait.
Oui, ça a un peu vieilli hein, quand même. Là on sent les années qui sont passées entre deux, mais
c'est 2008.
Hein. Sonorité, mais ouais, 2008, ouais, non, ça fait quelques années quand même.
Et bon, alors surtout en 2008, à cette année-là, la radio elle obtient une fréquence à Amiens, Arras et Saint-Quentin. Et surtout le 24 décembre 2009, Rock FM, la radio officielle des Ch'tis, comme on peut l'entendre, la radio devient Métropolis.
Pourquoi changement de nom? Parce que, à l'époque, en tout cas, on avait des petits soucis avec Rock FM, ROC. Les gens pensaient qu'on passait du rock. Or, on passait tout sauf du rock. Et c'est vrai que ça posait des petits soucis de temps en temps. J'écoute pas Rock FM parce que j'aime pas le rock. Et en même temps, et ça, Bruno Lécluse le dit d'ailleurs dans le passage qui va de rock à métro. On avait fait une interview de Bruno Lécluse, qui est le fondateur, hein, qui explique en plus, propriétaire d'une belle marque, Métropolis, qui n'utilise plus à cette époque-là. Le changement se fait dans ce sens-là. C'est-à-dire, rock, le nom ne correspond pas tout à fait à ce qu'on veut faire. Et Métro est une plus belle marque. Voilà, on va vers ça.
Mais justement, on a ce passage de Rock FM à Métropolis le 24 décembre 2009. Écoutez.
Et puis, ça y est, dans quelques secondes maintenant, Rock FM va s'appeler Métropolis.
Une évolution dans la continuité, puisque seul le nom est modifié. Concernant tout ce que vous aimez de Rock FM, la musique bien sûr, qui reste l'essentiel des hits, les infos pratiques, les points routes, les animateurs et les journalistes, rien ne change. Reste que ce nouveau nom, Métropolis, n'est pas si nouveau que cela. Vous vous souvenez peut-être de la radio Métropolis, qui a animé largement le nord de la France dans les années 80. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire renaître cette radio-là. Bruno Lécluse était à l'époque le PDG de Métropolis et il est aussi cofondateur de Rock FM. Pour nous, il fait bien la part des choses.
Cette radio a existé, c'était il y a maintenant quand même plus de 15 ans. Et donc, il n'est pas du tout dans l'idée de vouloir refaire cette radio, de vouloir la faire revivre. Il est vraiment dans l'idée de dire, utilisons cette belle marque, c'est une belle marque. Et puis, peut-être quelques clins d'œil, effectivement, à la radio historique. Mais non, c'est Rock FM qui se poursuit et qui utilise une marque qui est plus performante.
Rien ne change donc sur Rock FM, sauf le nom. Et ça y est, c'est...
Le maman. Et alors 8h05 effectivement sur Rock FM, on va accueillir quand même, alors après des centaines d'heures de réunions, des milliers d'heures de travail, l'heure est venue maintenant effectivement de s'appeler Métropolis. On va demander à Bertrand de Better qui est dans le studio parce qu'il commence à y avoir pas mal de monde de prendre un micro, Bertrand, de toucher deux ou trois mots quand même sur ce changement malgré tout qui a eu ce matin sur l'antenne de Rock FM pour l'instant.
Bah, Bruno l'a bien dit, effectivement c'est la continuité de Rock FM, juste le nom qui change avec effectivement les clins d'œil, et on aura l'occasion durant la journée d'en reparler. Ce qui est dommage, c'est qu'il manque un petit peu l'équipe qui n'est pas présente dans le studio.
Ah si, ils sont là.
Alors, rien ne change, sauf la direction de Rock FM.
D'accord.
C'est moi. Et puis juste un mot.
Ah bah c'est bien, justement, tu voulais augmenter les salaires.
J'y pense. Concernant effectivement les petits coucous également, bon bah merci pour cette belle aventure et qui se poursuit à Bruno, à Olivier Ramon et puis à Philippe Schemberg également, ouais, à qui je travaille pour la prog musicale.
Voilà, et puis on va applaudir un petit peu Rock FM quand même parce qu'il mérite. Magnifique. On y va. Allez, c'est parti.
À partir de maintenant,
toujours plus proche de vous, toujours avec l'essentiel des hits. L'essentiel des hits.
Rock FM s'appelle
Métropolis.
Métropolis.
Voilà, c'était le passage de changement de nom de Rock FM à Métropolis. Alors j'ai coupé parce que juste avant le nouvel habillage qu'on pouvait entendre, il y avait pendant 2-3 minutes plein d'extraits qui retraçaient plus ou moins ce qu'était Rock FM
l'histoire
à l'époque.
De rock.
Ouais. Donc bon, ça je l'ai coupé. Vous pouvez le retrouver assez facilement sur internet l'extrait complet. Moi, ce que j'ai bien aimé, je trouvais que c'était une bonne idée, c'était le clin d'œil à l'ancienne radio Métropolis avec l'émission 3600 secondes.
C'était une idée de Bertrand de faire revenir cette émission qui est composée de mash-up, de medley, mais des morceaux qui étaient vachement rares. Qui voilà, il travaillait beaucoup sur l'émission et c'était le petit clin d'œil. Il n'y a pas eu beaucoup de clin d'œil hein, à l'ancienne Métropolis. Il y avait quelques jingles également qui tourné sur certains titres. Voilà, on avait ressorti 2-3 chantés Métropolis des années 80, mais le vrai clin d'œil des 3600 secondes. Ouais. Ouais.
Et on écoute justement une promo antenne qu'on pouvait entendre en septembre 2010.
Vendredi 3 septembre 2010, 20h, sur Métropolis. Entrez dans l'univers de l'émission mythique de Métropolis.
3600 secondes.
Remix, bootleg, exclu. Avec Bertrand de Vetter, chaque vendredi soir, 20h sur Métropolis.
3600 secondes.
L'émission culte de Métropolis, chaque vendredi, 20h.
Moi, je vous encourage à réécouter certaines sessions de 3600 secondes qui sont encore disponibles hein, sur le site de Métropolis. J'en ai réécouté. C'est vrai que c'est super sympa. Et ouais, c'est vrai que c'est très bien produit. Alors, pour revenir au changement de nom, comme souvent après un changement de nom, justement, l'audience selon Médiamétrie a chuté. On est passé de 102 700 auditeurs en juillet 2009 à 85 100 en 2010. Vous y attendiez ou pas?
On s'attendait à une cuvette, ouais. Après, bon... Entre les marges d'erreur positives et négatives, on ne sait jamais vraiment où on en est.
Un an plus tard, on se retrouve avec 102 300 auditeurs. Donc finalement, on retrouve le même niveau. Quoi. En tout cas, toi, l'aventure Métropolis s'est arrêtée le 5 juillet 2013. C'était la dernière matinale pour toi, dernière matinale avec Marie Dufour.
8 ans, j'ai fait 8 ans de morning.
Et en juillet 2019, selon Médiamétrie, Métropolis, elle compte 79 100 auditeurs. Et c'est maintenant la 33e radio des Indés. Et toi, Julien, depuis, tu as travaillé pour Maxillaire, tu as dirigé la radio Horizon, et en septembre 2019, tu crées une société de production, Overdrive Production.
Ouais, société de production, donc pour de l'habillage, pour de la publicité, du programme également, et puis d'autres projets annexes qui sont destinés aux hors-médias, parce que moi j'ai toujours été un passionné de la mise en onde et et globalement de la production. Et je voulais aller au bout de ce projet que j'avais en tête depuis un petit peu de temps. Parce qu'on se rend compte quand même qu'il existe aujourd'hui des possibilités de faire ça avec des budgets qui sont cohérents par rapport au Radio B pour leur donner vraiment un bel emballage cadeau et que ça ressemble vraiment à quelque chose.
Mais en tout cas, merci beaucoup Julien pour ton intervention.
Bah écoute, merci à toi Anthony, puis bravo parce que j'écoute régulièrement tes podcasts et franchement c'est sympa à écouter.
Eh ben ça me fait vraiment très plaisir. Merci Bertrand d'être intervenu, d'avoir parlé de l'histoire de Rock FM actuellement Métropolis.
Bah merci écoute de m'avoir appelé, puis au niveau de tes podcasts, je voulais aussi te féliciter pour le bon boulot de travail, de recherche et au plaisir pour te raconter le Métropolis d'aujourd'hui.
Eh ben, merci. Et d'ailleurs, on peut t'entendre à l'antenne maintenant, toujours sur Métropolis.
Du lundi au vendredi, entre 6h et 10h. On va finir en tout cas la saison. On prend le même modèle du confinement, c'est-à-dire que je fais un 6-10 et je poursuis 10-12 avec des auditeurs en ligne, avec les bons plans, services, proximité, parce qu'il y a encore ce télétravail, ces inquiétudes et beaucoup de choses qui bougent d'ici les vacances d'été. Voilà.
Bon, ben en tout cas, on va continuer de suivre de très près cette radio Métropolis qui a une formidable histoire. Et merci encore d'être intervenu pour en parler.
Au plaisir. Bye bye.
Et je vous annonce que les parties archives des prochains épisodes seront consacrées à l'histoire de Fun Radio. Ce sera une série en 3 parties à découvrir tout au long de l'été à chaque début de mois. Et puis pour les plus impatients, hein, la première partie est disponible dans Des Ondes Vocasses Premium. Vous pouvez y entendre Éric Péchadre, un des 3 fondateurs, nous raconter le contexte de la création du réseau Fun. Rendez-vous sur premium.vocasse.fr et souscrivez à Des Ondes Vocasses Premium. Vraiment, l'histoire de Fun Radio, c'est une histoire absolument passionnante. C'est la fin de cet épisode Des Ondes Vocasses, le podcast qui parle de radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. En voix off, Estelle Hubert, avec en fond sonore Rob It's a Blast, la BO de Radio Star. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Rendez-vous sur notre site web vocast.fr. Des Ondes Vocasts est dispo à l'écoute sur les plateformes de podcasting. Hein. Si vous avez une enceinte Google Home chez vous, maintenant qu'en France, Google Podcast est intégré à l'assistant Google, vous pouvez dire « Ok Google, je veux écouter Des Ondes Vocasts ». Vos réactions sur cet épisode par mail, contact@vocast.fr ou sur mon Twitter, Anthony Gouraud, ANTHYGOU2RAUD. Rendez-vous pour le prochain épisode le 1er juillet 2020. Ciao!
Des Ondes Vocasts.